Le vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, marquait le lancement des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole. Comme repère habituel et annuel, c'est à Montréno, salle Aretha Franklin, que le collectif Vivre Ensemble à Montréno et d'autres associations et structures comme le PIMS Médiation, le CLJ ou la Sauvegarde 42 invitaient les habitants à venir partager un moment d'échange et de réflexion autour de la femme, du droit à l'éducation et à la formation, de l'indépendance et de l'accomplissement de soi-même. Sur plusieurs temps dans cette journée, toutes les générations se sont investies, comme vous allez l'entendre dans ce reportage, les ondes de l'égalité proposées par Radio Ondaine dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole. Débutons avec le collectif Vivre Ensemble à Montréno, avec Gérard Montandon et Marie-Claire Roux.
On a voulu mettre l'accent en fait sur les femmes, puisque c'est leur journée, donc c'est évident. Et puis c'est pour ça qu'on avait prévu donc un programme pour, avec des diapositives, donner toutes les citations qui ont valorisé, qui ont mis en valeur les femmes. Et puis donc après, on va essayer de poursuivre avec d'autres actions, avec un film qui sera projeté. Et puis ensuite, je crois que les associations vont se faire un plaisir de faire quelques crêpes et puis on va pouvoir les déguster avec une petite boisson.
Alors c'est toujours un moment de rencontre ici, un moment privilégié où on prend du temps. On se donne rendez-vous en début d'après-midi et ça va jusqu'à la soirée.
Oui, c'est jusqu'à 20h. Et aujourd'hui en particulier, on a mis l'accent sur l'éducation de la femme. Parce que, comme on disait, que ce soit les citations, que ce soit les dames du PIMS qui ont fait des ateliers linguistiques et qui ont voulu aussi parler aux jeunes, surtout qui sont au collège, de l'importance de l'éducation pour une femme. Et parce que quand on éduque une femme, comme on a dit, on éduque la nation.
Alors ça, c'est les citations. C'était important aussi d'avoir ces citations d'hommes et femmes célèbres. On avait Virginia Woolf, par exemple, cette écrivaine qui a beaucoup écrit sur la condition féminine. Et d'autres citations, encore d'autres personnes, Nelson Mandela aussi, me semble-t-il. Comment vous les avez choisies?
Eh bien, en fait, c'est Marie-Claire qui les a choisies, parce que elle est très ancienne, justement, sur le collectif. Et donc chaque année, donc elle se fait un plaisir de changer et de trouver donc les bons thèmes pour valoriser justement la femme.
Alors justement, Marie-Claire, ces citations, s'il y en a quelques-unes qui sortent du lot que vous voulez nous présenter, ce seraient lesquelles?
Quasiment, on a choisi 12 citations qui ont été approuvées aussi par les bénévoles, parce que ça parle justement de l'importance de la femme dans le monde. Et notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc derrière un homme, il y a une femme, notamment. Et là, ce sont les personnes qui l'ont trouvé, même qu'on n'avait pas mis dans les citations. Mais toutes les citations parlent de l'éducation et de son importance. Et les femmes qui n'ont pas eu cette chance, justement, d'aller à l'école, c'est pour ça qu'elles ont donné des messages pour dire aux jeunes, faites attention, allez à l'école, c'est très important.
Alors au-delà de cette journée-là, on parle souvent du collectif Vivre Ensemble à Montréno sur l'antenne de Radio Ondaine, et c'est cette revendication aussi de proposer, de construire ensemble des choses pour tous, pour les femmes, pour les hommes aussi. Mais le constat, et encore une fois aujourd'hui, on se comptait hein, dans la salle le nombre d'hommes présents, ce dynamisme-là de quartier fait par les femmes, pourquoi on attire moins les hommes?
D'abord, il y a des hommes qui ont gardé les enfants. Et puis, il y a des hommes qui travaillent. Mais c'est aussi pour leur famille et leurs femmes en particulier. Et il y en a qui sont passés en revenant de la mosquée, qui se sont dit, tiens, il y a des femmes qui sont très bien habillées, donc on va se changer, on revient. Donc on les attend, aussi pour le goûter.
C'est l'événement annuel, un des événements annuels, et je le rappelle encore une fois à l'occasion des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, où va se rejouer, se rejoue en ce 8 mars, ce petit théâtre forum présenté par les jeunes, parce que aussi c'est ça, on parlait d'éducation, d'avenir, notamment les femmes en atelier linguistique du PIMS en parlent. L'avenir c'est les jeunes, et c'est se vivre ensemble.
Oui, l'avenir c'est les jeunes, donc il faut les impliquer aussi dans le respect de la femme, et c'est très important. Et c'est d'ailleurs les jeunes qui vont préparer les crêpes. Et donc, c'est les jeunes qui préparent le goûter pour tous ceux qui sont là, tous les participants.
Qu'est-ce qu'on en fait ensuite d'une journée telle que celle-ci, les journées internationales des droits de la femme? Qu'est-ce qu'on en fait à l'année au collectif Vivre Ensemble à Moreno?
Ah ben nous, on le fait en permanence, parce qu'en fait, il y a une majorité de femmes qui font partie du collectif Vivre Ensemble. Hein. Le but, c'est justement de valoriser la femme et puis de faire en sorte justement qu'il y ait moins de problèmes à l'avenir, quoi.
De ces femmes présentes aujourd'hui, qui restent, quel sentiment vous avez de voir que la mobilisation, quand vous organisez des choses, existe réellement?
La mobilisation existe parce qu'on a commencé aujourd'hui par une marche de l'égalité qui a été pensée par la boule du croc avec la mutuelle de France Unie. Et donc, les femmes et les hommes donc, ont fait cette marche. Ce matin, à 9h30. Et là, donc, il y a une poursuite. Il y aura tout à l'heure un théâtre forum avec les jeunes. Il y a des messieurs aussi. Donc, ça va permettre aux personnes de réfléchir sur leur avenir aussi et voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut corriger aussi dans la vie. Parce que la vie, c'est toujours une recherche. Et une amélioration aussi pour le futur.
Le climat des violences conjugales, c'est un peu similaire à un climat de guerre. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une bombe qui va tomber. On ne sait pas quand. Ça peut être dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans une semaine. Mais on sait que ça va tomber. Du coup, on est tout le temps sous tension, on est tout le temps stressé. On est tout le temps à l'affût. Et du coup, pour pouvoir justement sortir de ça, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment je peux réussir à trouver des solutions? C'est pas simplement accepter ou pas accepter. C'est à un moment donné, on est tellement dans une situation de guerre, c'est quelle stratégie je peux mettre en place à un moment donné pour que ça explose le moins possible. Se sortir de ça, c'est encore autre chose, parce qu'on est déjà sous emprise, on est déjà sous contrôle. Et pour arriver à sortir de cette emprise et de ce contrôle, c'est tout un apprentissage qu'on essaye de faire avec les personnes qu'on accompagne sur la question des limites. C'est-à-dire, à un moment donné, quelles sont mes limites et qu'est-ce que je peux mettre en place pour, à un moment donné, dire stop. Si ça ne me va pas dans ma relation, à quel moment je peux dire stop? Pour ça, on travaille justement sur l'ensemble des formes de violence. Je vous parlais des violences verbales, il y a aussi d'autres formes de violence, les violences économiques, le contrôle par l'argent. Ok, il faut partir, il faut sortir, mais je vais où? Je vais à quel endroit? J'ai pas d'argent, j'ai rien. Je vais dormir dans la rue, comment ça va se passer? En plus, il m'a toujours dit, si tu pars, tu vas finir dans la rue, tu le chapes. Le fait de ne pas avoir d'argent, c'est aussi un moyen de contrôle. Sauf qu'il y a des solutions qui existent, il y a des choses qui peuvent se faire. L'important, c'est de savoir qu'on n'est jamais seul. Le plus dur, c'est effectivement d'en parler. Mais une fois qu'on a fait ce pas-là, il y a beaucoup d'associations, de personnes, que ce soit la nôtre, mais n'importe qui autour de vous. Le plus important, c'est de ne pas se retrouver seul. Parce que se retrouver seul, ça profite qu'à une seule personne. C'est la personne qui est violente avec vous.
En ouverture de cet après-midi, vous avez souhaité faire intervenir l'association SES Violence Conjugale 42 par le biais de sa directrice et d'un éducateur, Catherine Bresse et Pierre Mallet. Pourquoi?
On s'est dit que c'était important de savoir aussi qu'il y a de la violence aussi dans les familles parfois et que c'était important que les personnes qui étaient là comprennent comment cette association fonctionne et quel recours aussi à faire de ne pas rester si jamais ça arrive, parce que c'est aussi une prévention, mais aussi une alerte pour que les gens puissent savoir où aller quand il y a un problème. Et c'était important pour ce jour.
C'est aussi ça l'objectif du collectif Vivre Ensemble à Moreno, c'est profiter de la mobilisation de nombreuses personnes pour présenter donc, ce type d'association. Est-ce que ce sont des actions qui sont vouées à se multiplier, d'inviter des associations à venir présenter leurs activités, notamment ces associations de défense?
Oui, c'est très important pour les habitants, parce que souvent il y a de l'ignorance derrière, et on sait toujours pas comment fonctionne parce qu'on reste sur le quartier, mais l'ouverture est plus compliquée. Et c'est important d'inviter ces associations justement pour qu'elles présentent ce qu'elles font et pour que les habitants aussi puissent avoir une ouverture là-dessus.
Le droit à l'éducation, à la formation pour les femmes. Voici le thème choisi ce 8 mars à Montréal. Et durant cette journée, le PIMS Médiation était venu pour présenter les productions écrites des femmes qui participent aux ateliers linguistiques animés par Cécile Diallo.
Alors le PIMS de Montréal, qui est donc un lieu ouvert aux habitants pour les aider dans leurs différentes démarches administratives et qui dispose également d'un espace public numérique, accueille également des ateliers de français qui se déroule donc 2 jours par semaine à raison de 4 séances et qui accueille les personnes du quartier qui souhaitent apprendre le français.
Alors quels sont les autres objectifs à côté de cet objectif général d'apprendre le français? Quels sont les autres objectifs que vous fixez dans ces séries d'ateliers?
Alors, évidemment, on travaille le français, mais l'objectif, c'est aussi de partager, de discuter, de comprendre la société dans laquelle on vit, puisque ce sont des personnes qui sont pour la plupart arrivées de l'étranger pour s'installer en France. Donc, lors de ces séances, on travaille sur l'aspect très pratique des choses, la vie quotidienne, mais on prend aussi du temps pour réfléchir sur la société française, sur leur place aussi en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que mère. On a quelques hommes aussi, je parle au féminin, mais on a quelques hommes également. Et donc là, on a voulu faire un travail pour la journée du 8 mars.
Alors effectivement, aujourd'hui, à l'occasion de cette journée du 8 mars, on a eu l'occasion de découvrir les réalisations et les textes qui ont été faits lors de ces ateliers-là par Fatima et Raja. Vous êtes toutes les trois participantes à ces ateliers du PIMS. Alors, ces ateliers du PIMS, comment vous en avez entendu parler? Comment vous êtes inscrite à ces ateliers-là?
Oui, c'est ma copine qui m'a parlé sur le cours français au PIMS. Et après, j'ai décidé de... Ça fait longtemps que je suis en France, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté le cours français. Ça fait 2008. Et avec j'ai eu des enfants, pour ça j'ai pas pu de apprendre français. Et mais maintenant j'aimerais bien continuer à apprendre le français pour la vie, pour mes enfants, pour beaucoup de choses. Je vis en France, il faut que j'apprends à parler comme les autres.
Raja, pour vous, pourquoi vous y êtes inscrite?
J'ai juste 2 ans ici en France. J'ai un problème de parler en France. C'est pour cela que j'ai entré à PIMS pour améliorer mes connaissances françaises, la langue française. Et pour aider mes enfants dans leurs devoirs.
Fatima?
Moi aussi, j'ai 10 ans ici en France et j'ai inscrit au PIMS pour améliorer la langue française pour moi, pour le travail, pour mes enfants, pour mes besoins, les rendez-vous médicaux, les trucs comme ça. Voilà, et au PIMS, on est au top avec Cécile, franchement, je le remercie beaucoup, même avec Raphaël aussi, au côté numérique. On est très très bien avancé parce qu'en fait, on a des capacités à faire, mais on est enfermé ou quoi. On aimerait bien des personnes comme eux pour nous aider à intégrer à la société française. Voilà, c'est ça.
Alors, restons sur ces ateliers-là. D'une manière générale, qu'est-ce que vous y faites dans ces ateliers-là? Quel est l'atelier, entre guillemets, l'atelier type, quand vous arrivez, par exemple? Qu'est-ce qui se passe?
On apprend les choses dans, sur la France, sur beaucoup de choses. Ça fait pas longtemps, comment ça s'appelle, une ville, comment ça s'appelle, à Paris, et ça s'appelle la belle ville, c'était un quartier, et comment c'était construit, le quartier, et on a parlé beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, et j'aime bien ça, c'est bien, c'est pour...
Alors, quelles sont les discussions que vous avez avec Cécile, avec Raphaël et même entre vous durant ces ateliers-là?
On a parlé à beaucoup de choses comme notre quartier, on a pris la langue française, les règles de la langue. On a pris avec Raphaël l'informatique et des logiciels, de nouveaux logiciels. Maintenant, on peut parler mieux que le début. On savoir bien utiliser l'ordinateur.
Alors aujourd'hui, à l'occasion des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, dans lequel s'inscrit ce rendez-vous maintenant annuel ici à Montréno avec le collectif Vivre Ensemble à Montréno et puis le PIMS et les associations qui existent dans ce quartier-là, vous avez souhaité participer et dévoiler des textes, lire des textes que vous avez écrits autour de la journée des droits de la femme. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous ce titre-là, la journée des droits de la femme?
Sur les ateliers avec Cécile, on a travaillé sur nos parcours, à nous, chacune parmi nous. Elle a raconté son parcours dès le début jusqu'à aujourd'hui. On a commencé par comment on a entré à l'école, comment nos parents encourageaient tout ça, en fait, et donner des conseils aux filles pour ne pas rater. Qu'est-ce que nous, on a raté de notre vie? Parce qu'on a fini presque tous par le mariage. C'est notre fin de parcours. Et ça, je suis contre. On aimerait bien de continuer de travailler, de imposer nous dans la vie. Voilà.
Alors, c'est dur de parler de soi, de parler de son parcours entre vous. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a des choses que l'on ne dit pas? Comment on se dévoile finalement les unes aux autres?
Non, ça va. Avec Cécile, on est, comment on dit, on est comme la famille. On raconte notre parcours. Et c'est bien. Des fois, on est contente de parler sur ce qu'on a fait avant et comment on est rentré en France, comment on est arrivé ici. Et c'est bien aussi pour avec les autres femmes et avec tout l'original. C'est pas juste marocaine, il y a plusieurs d'original et c'est bien.
Vous, Raja, tout à l'heure, vous étiez sur scène avec un micro. On a senti l'émotion au moment. Alors, c'est toujours difficile de s'exprimer en public, mais est-ce que ça aussi, ça vous a fait du bien, peut-être, de vous présenter devant un public?
Oui, c'est un peu difficile, mais puisque c'est la première fois de parler à haute voix devant plusieurs gens, mais c'est une belle expérience. Et avoir s'exprimer devant beaucoup de gens, c'est bien pour moi. Je compte comme une belle expérience grâce à la PIMS. Car avant ça, je ne peux pas parler en français rapidement et facilement.
Alors, il y a dans tout le travail que vous avez fait, le dernier texte qui a été lu, qui a été présenté, c'est un message aux générations futures. Pourquoi avoir écrit ce texte-là? À qui il est destiné?
À destiné aux générations qui sont là au lycée, au collège et tout. Comme ça, ils ne fassent pas la même chose que nous. Et parce que l'éducation, elle n'a pas de limite. Il faut aller au fond. Il faut profiter le maximum, faire des stages, des formations, des n'importe quel domaine. Ça a aidé beaucoup prochainement.
Alors, au sein de PIMS Médiation et ses ateliers linguistiques, c'est ouvert à toutes les personnes qui franchissent la porte et qui souhaitent s'inscrire, avec des personnes qui sont en France depuis un peu plus longtemps que d'autres et avec des parcours totalement différents. Comment vous travaillez avec ces femmes et ces hommes, certains hommes qui viennent vous voir? Comment on adapte au niveau de chacun?
En fait, on part aussi beaucoup de ce que vivent les personnes, de là où elles vivent, de leur statut. On a des mères de famille, on a des personnes qui sont en activité, on en a d'autres qui sont presque à la retraite. Donc, on part de ce qu'elles vivent au quotidien. Et c'est un apprentissage qui se fait en lien avec leur vie tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas de la grammaire pour de la grammaire, c'est pas du... Voilà. Et on prend aussi le temps de d'échanger, justement, sur ce qu'on vit. En bien ou en difficile aussi parfois et du coup parce que c'est avant tout un espace aussi de rencontre où on décrypte la société dans laquelle on vit, le monde qui nous entoure aujourd'hui parce que la migration forcément elle questionne les relations entre les pays, entre les peuples, entre les cultures. Donc c'est aussi des lieux où on décrypte un peu les choses et on parle de ce qu'on est, de ce qu'on vit et où on apprend, comme on le disait tout à l'heure, à s'écouter pour se comprendre un peu mieux et vivre ensemble.
Alors la thématique pour cette journée internationale des droits des femmes ici à Moreno était aussi axée sur l'éducation. Et il y a eu des mots forts qui sont ressortis dans ces textes-là, du fait de ne pas avoir pu aller à l'école, de ne pas avoir pu étudier, de se retrouver aussi dans un pays où la langue est à apprendre. Il y a ce mot, on se retrouve comme des animaux, et vous avez souhaité aussi le mettre, l'écrire, l'intégrer à l'écran, parce que c'était aussi ces mots-là qui sont ressortis.
Oui, tout à fait. C'était dans le groupe, effectivement, avec des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas été à l'école. Donc, analphabète, c'est le terme technique. Mais voilà, derrière ce terme, effectivement, il y a beaucoup de souffrance pour ces femmes qui n'ont pas pu apprendre et pour qui le monde est bien confus, encore plus quand on part dans un pays qui n'est pas le sien. Et c'est vrai que, moi, j'ai voulu revalider avec elles les échanges qu'on avait eus pour les écrire. Et du coup, elles ont tenu. Hier, elles m'ont dit non, mais ce mot, il faut le laisser parce que... on se sent pas complètement humain quelque part quand on peut pas lire, quand on peut pas écrire et que le monde nous échappe. Et même si les avancées sont modestes, on voit dans leurs yeux quand il y a des choses qui s'éclaircissent, qu'elles comprennent, qu'elles arrivent à écrire des choses toutes seules. C'est un grand bonheur pour les personnes qui les accompagnent.
Dans le déroulé de ces ateliers-là, on l'a évoqué tout à l'heure, avec plusieurs rendez-vous, il faut aussi faire avec la vie de famille, avec le travail pour certaines aussi. Comment on arrive à fédérer le groupe? Est-ce que le groupe, d'ailleurs, je dis on arrive à le fédérer, mais est-ce que le groupe se fédère lui-même et vient d'une manière très assidue?
Alors, évidemment, ce sont des femmes qui ont parfois des emplois. Il y en a qui ont beaucoup d'activités à la maison, beaucoup de choses à faire. Mais je sens quand même chez la plupart d'entre elles vraiment cette volonté d'assister aux cours le plus régulièrement possible. Moi, je dirais que c'est un peu leur temps dans la semaine pour elles, où elles vont pouvoir apprendre, progresser, devenir plus autonomes dans leur quotidien, et puis retrouver d'autres femmes. Donc il y a aussi beaucoup de convivialité. Je veux dire, moi je suis pas, parfois elles m'appellent la maîtresse et je leur dis non, je suis pas la maîtresse, je suis l'animatrice, pour qu'on apprenne à se connaître, qu'on partage et puis qu'ensemble on trouve la force d'avancer, d'apprendre, parce que c'est un gros investissement. On se rend pas compte de ce que ça représente d'apprendre à lire et à écrire pour les plus en difficulté quand on est adulte. C'est pour ça qu'elles ont tenu à dire aux plus jeunes que c'est important de l'école, la formation à tout âge.
On termine avec ce texte-là à nos filles que va nous lire Fatima.
Un message pour nos filles, pour toutes les jeunes filles. À nos chères filles, nous sommes des mamans, nous vivons en France, sans éducation, sans diplôme. La vie est vraiment très difficile. Nous vous conseillons de bien étudier et d'obtenir un diplôme pour trouver votre place dans la société. C'est le plus important pour être fiers de vous et vous sentir en sécurité, sans dépendre de personne. Il faut étudier pour vous-même et pour l'avenir de vos enfants. Il est important d'avoir un but dans la vie pour réaliser vos rêves. Et ne faites pas comme nous, trouver un travail, c'est très important pour une femme.
Vous participez aujourd'hui, comme assez souvent, à ces manifestations du collectif de Vivre Ensemble à Montréal. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Pourquoi venir ici?
Parce que c'est important et parce que la place d'une femme dans la société, c'est très important pour moi en fait. Moi j'ai vu ma mère arriver en France avec des difficultés, avec... Et même malgré ces difficultés, elle nous a éduqués, malgré ces difficultés financières, tout. Même cette barrière de langage, je trouve que c'est hyper important la femme.
Alors vous évoquez cette barrière du langage et on a pu entendre des textes qui ont été rédigés dans un atelier, oui. Justement un atelier linguistique. Vous parlez de votre mère.
Ça m'a peinée parce que je me suis sentie à travers les textes qu'elles ont écrits. J'ai revécu les moments que j'avais passés il y a quelques années.
Aujourd'hui, c'était aussi un texte qui s'adressait aux générations futures. Quand vous croisez ces générations futures, je ne sais pas si vous avez des enfants ou peut-être oui. Les gens vous côtoyez. Alors, voilà, justement, vous venez de dire que vous n'avez pas de filles. À vos garçons, qu'est-ce que vous leur dites?
Que la place d'une femme dans la société est importante et qu'il faut la respecter. Qu'il faut la respecter, voilà, je leur dis ça. En sachant que je suis toute seule aussi à les éduquer, je crois qu'ils le comprennent aussi.
Lancement donc de ces semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole et c'est avec Siam Labiche, deuxième adjointe à la ville de Saint-Étienne et vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, que nous poursuivons ce reportage.
Alors la journée internationale des droits des femmes devrait être tous les jours, mais c'est toujours important d'avoir une journée pour se rappeler tout le chemin qui a été parcouru, d'où on part, et d'identifier le jour même encore tout le chemin qui reste à parcourir. Donc ça permet à l'ensemble des personnes, des femmes, des hommes, qui se réunissent ce jour-là, d'identifier tout ce qui a été produit et puis de réaliser qu'il n'est pas normal encore qu'au 21e siècle, on ait besoin de célébrer une journée internationale des droits des femmes. Donc c'est important pour bien prendre conscience que nous devons tous et toutes encore combattre, lutter pour progresser et faire en sorte que les droits des femmes soient reconnus et que femmes et hommes soient sur le même pied d'égalité.
Ici, à Montréal, dans cette salle Aretha Franklin, à l'invitation du collectif Vivre Ensemble à Montréal, mais avec d'autres structures, le PIMS Médiation, l'Espace Jeunesse Sauvegarde, on retrouve plusieurs générations que l'on a entendues dans ce reportage. Et c'est autour de l'éducation que la thématique était axée. C'est quoi pour vous ?
Quand on parle d'éducation, on parle souvent d'abord d'éducation des enfants, d'éducation des jeunes. Et parler d'éducation des femmes, moi je parlerais plutôt de sensibilisation plutôt que d'éducation, de sensibilisation et de formation. C'est-à-dire que les femmes ont peut-être besoin de comprendre qu'elles ont une place sur l'espace public, une place au sein de leur foyer aussi, une place dans la société et qu'elles ont la possibilité de démontrer à quel point elles peuvent apporter. Sauf que on le voit bien, souvent les femmes, dès qu'elles s'inscrivent dans des parcours professionnels, dans des parcours politiques ou même quand elles veulent s'impliquer dans le monde associatif, elles souffrent de ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Elles considèrent qu'elles ne sont pas à leur place parce qu'elles vivent très mal parfois ce regard qu'elles interprètent très justement ou non justement des hommes, et donc elles considèrent qu'elles n'ont pas les compétences pour. Donc plus qu'une éducation, c'est plutôt une sensibilisation et une formation pour ces femmes, pour qu'elles comprennent qu'elles ont elles aussi la possibilité d'apporter à la société et qu'elles peuvent aussi progresser dans le domaine politique, dans le domaine associatif ou dans le domaine professionnel.
En lancement ce midi des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, vous avez eu ce discours en pointant le chemin qui reste à faire, ce discours que vous avez prononcé sur l'inégalité salariale, sur les violences conjugales, sur les femmes qui meurent sous les coups de leur mari, ces féminicides, tout ça on le dit, on le répète. Quel levier on a à l'échelle d'une métropole, d'une municipalité ?
parfois face à ce constat, parce qu'effectivement ce qui a été édicté c'est un constat, et chaque année on se retrouve souvent avec le même constat, avec des chiffres différents, des chiffres qui évoluent à la hausse ou à la baisse, mais toujours avec le même constat. Et effectivement, ce que nous devons rechercher, ce sont de véritables leviers d'action pour pouvoir rendre efficace cette évolution. Et donc en termes de leviers d'action, il y a d'abord le corpus législatif, hein, c'est-à-dire les évolutions juridiques qui sont extrêmement importantes pour démontrer que tout délit de ce type entraîne emprisonnement et amende et que nous n'avons pas le droit de le faire. Et puis il y a d'autres leviers d'éducation, de formation, de sensibilisation pour pouvoir progresser. Et donc Saint-Étienne Métropole propose, elle, en tant que politique publique, le levier de manifestations telles que celle-ci, où on répond à un certain nombre de questions, où on informe, on éduque, on sensibilise et on forme.
8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Une journée pour encore constater que le chemin est long, qu'il est difficile de faire bouger les lignes. L'éducation, comme thème de cette journée avec le collectif Vive Ensemble à Montrénault, en est un moyen. Et l'implication des jeunes générations, une obligation. Venue avec l'espace loisirs Sauvegarde 42, Fatine nous lit un texte qu'elle a écrit pour les filles, pour les femmes.
La femme, quelle histoire! C'est l'histoire de toute l'humanité, puisque c'est elle qui l'a engendrée. Les femmes représentent la moitié de l'humanité, une tendre moitié qui a porté et porte encore physiquement et moralement l'autre moitié. Pourtant, on a toujours tenté de les maintenir dans l'ombre. Partout dans le monde, la vie des femmes est un long combat pour la reconnaissance. En 1995, dans un rapport d'Amnesty International, on pouvait lire « Les femmes sont des millions à vivre dans la peur et la misère ». Toutefois, je ne vais pas vous parler ce soir des injustices, des agressions, des meurtres, des viols, du vol, constant des idées, des conceptrices de projets. Je veux vous parler de la renaissance, du monde qui meurt de pollution, de guerre, de la répétition historique, des mêmes luttes et de pouvoir et d'argent. Les femmes sont celles qui donnent naissance. Elles seront aussi les mères de la renaissance de cet univers si elles mettent en avant les valeurs de vie, d'espoir et de respect. Si elles prennent leur place et leur rôle en gardant ce qui les définit au plus profond de leur nature, il faut savoir fonctionner à notre hémisphère du cerveau. En principe, féminin. Une vision féminine de l'univers devrait guider les décisions de la renaissance du monde. J'y reviens à ce mot parce que j'y tiens, la renaissance de l'univers, la recréation de l'univers, la recréation dans la joie. La démarche féminine porte un élan instinctif de création multiple, habitué à engendrer la vie, à la soutenir, à l'abréver, à la nourrir, à l'inciter à grandir, à l'embellir, à la traduire, à discuter, à partager, à construire un monde matériel et spirituel. La femme ne peut prendre qu'un seul rayon de l'action, elle rayonne en même temps dans différents cercles, avec l'intense conviction que notre planète de plantes, d'animaux et d'humains doit être respectée. C'est l'objectif premier. La vraie féminité, qu'est-ce donc? Une capacité de recevoir, de transformer, d'engendrer la vie et non la mort. La douceur et non la violence. La compréhension et non l'intolérance. La tendresse et non le cynisme. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir. Et ajoute, on devait le rester. Même s'il faut lutter pour imposer une nouvelle vision du monde. Le fond du cœur est plus loin que le bout du monde, dit un proverbe chinois. C'est là que se révèle l'unicité, une personne. Mais le fait d'être unique nous rend seuls et aucun langage quotidien ne peut exprimer tout ce qui se passe en quelqu'un. Les formes uniques que prennent les sentiments, la joie, la peur, la douleur, l'inquiétude, les désirs, les déceptions doivent choisir leurs mots pour vraiment résonner dans l'existence d'un autre. C'est le début de la communication de l'amour. C'est dans cette aventure excellente de la découverte que de soi qu'il faut se lancer dès l'enfance. Ici, les jeunes ont faim d'un rêve, d'un idéal, d'une vision, de leur propre rôle, de leur empreinte intérieure unique.